et merci d'avoir choisi Europe 1, il est midi.
Dans la période récente, nous avons eu 10 cas qui ont été signalés et ce sont des cas qui peuvent être d'intensité variable. Simplement, c'est quelque chose qui fait naître une première vigilance de notre part qui peut aller jusqu'à la radiation d'un personnel.
10 cas recensés d'enseignants radicalisés, affirmation ce matin sur Europe 1 de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale.
Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quels sont les risques, les conséquences? Le détail dans quelques minutes et nous accueillerons Yanis Roder, professeur d'histoire géo en Seine-Saint-Denis. L'autre grand titre de l'actualité, c'est cet attentat antisémite en Allemagne. 2 morts, 2 blessés graves le jour de Kippour et des heures sombres de l'histoire allemande qui reviennent fatalement à l'esprit.
On a franchi des lignes rouges ces derniers mois avec la parole. Je ne vois pas cela comme un acte isolé, mais bien comme la conséquence d'une situation plus générale.
Nous sommes sur place dans ce journal, également à suivre.
Il faut aussi nous réarmer, c'est ce à quoi nous a invité le président de la République.
Réarmer la société car elle court un risque. Les mots très forts de Christophe Castaner devant la commission des lois du Sénat. Le ministre de l'Intérieur et son secrétaire d'État étaient entendus sur la tuerie à la préfecture de police de Paris. Nous sommes au Sénat dans quelques minutes. À suivre également 619 salariés sur le carreau chez Michelin à La Roche-sur-Yon, des employés qui craignaient la fermeture, mais pas aussi subitement. Le bracelet anti-rapprochement pour lutter contre les violences conjugales, on ne peut que le proposer aux conjoints violents. Les militants d'Extinction Rébellion, ils bloquent en ce moment la rue de Rivoli à Paris. Et puis c'est une première dans l'histoire du rugby, un match annulé pour des raisons météorologiques. Justement, Céline Dacosta, c'est quoi le temps aujourd'hui?
Beaucoup plus calme chez nous. Avec le retour de larges éclaircies sur tout le pays, on a encore quelques averses du Poitou, Charentes, Limousin et près des frontières du Nord. Mais dans l'ensemble, un temps sec avec davantage de soleil sur la région PACA et de bonnes rafales de vent quand même. Soleil et vent soutenu également sur la Corse, sur les Caps Corses.
On vous retrouve pour une météo complète. Céline, ce sera juste à la fin de ce journal.
Europe 1.
Et cette question, Pierre, d'abord, celle de la radicalisation, elle se pose aussi, figurez-vous, dans un autre ministère, celui de l'Éducation nationale.
Oui, ce matin, sur Europe 1, Jean-Michel Blanquer dénombrait les cas de profs radicalisés en France.
Dans la période récente, nous avons eu 10 cas qui ont été signalés, et ce sont des cas qui peuvent être d'intensité variable. Simplement, c'est quelque chose qui fait naître une première vigilance de notre part, qui peut aller jusqu'à la radiation d'un personnel, et c'est peut-être quelque chose que je ferai d'ailleurs évoluer juridiquement, de façon à nous permettre d'avoir davantage de radiation quand quelqu'un a atteint un tel stade de radicalisation.
Jean-Michel Blanquer, ce matin sur Europe 1 avec Sonia Mabrouk, Virginie Riva, vous nous avez rejoint en studio, vous êtes la spécialiste éducation d'Europe 1. D'abord, 10 cas, est-ce que c'est crédible?
Alors le problème, c'est que c'est invérifiable. Après, le cabinet du ministre dit que même si c'est peu, ça n'est pas du tout minimisé. Au contraire, c'est pris très au sérieux. Tout l'objectif pour l'éducation nationale, c'est de repérer et ensuite de traiter les cas avec des sanctions administratives. Exemple à Torcy, où un professeur dans un lycée public est par ailleurs imam, a tenu dans sa mosquée des propos violemment anti-républicains. Son dossier administratif était pourtant vide, mais il a été révoqué. Le ministre d'ailleurs le disait, on l'a entendu ce matin sur notre antenne, il veut durcir ses mesures juridiques pour pouvoir plus facilement radier ses personnels. Il travaillerait aussi à une évaluation en amont des CV et des profils des candidats au métier de l'éducation nationale pour filtrer les profils radicalisés.
Virginie, le plus grand nombre de signalements concerne surtout les élèves.
Oui, là ce n'est plus du tout le même ordre de grandeur. On parle d'un millier de cas. Les signalements sont gérés au niveau de chaque rectorat avec partout un référent radicalisation. Situation particulièrement suivie en Île-de-France, à Paris par exemple. Une cellule de prévention se réunit chaque mois, pilotée directement par la préfecture. Là, on compte 200 à 300 signalements, en majorité des adolescents. Parfois, c'est dès le primaire, ce qui déclenche alors un suivi de toute la famille, les frères, les sœurs. Des détections qui se font sur la base de signaux faibles, à savoir un changement d'habitude vestimentaire ou alimentaire, un renfermement, un refus de dessiner, de jouer de tel instrument de musique ou tout simplement de s'asseoir à côté d'une petite fille.
Merci Virginie Riva, spécialiste éducation d'Europe 1.
Alors, y a-t-il des profs témoins justement des cas que nous venons d'évoquer ensemble? Oui, même si vous allez le voir et le comprendre, ça n'est pas simple à détecter ni à dire, comme en témoigne d'ailleurs au micro d'Europe 1, un professeur d'histoire-géographie, Yanis Roder, il officie en Seine-Saint-Denis.
Le corps enseignant, visiblement, n'est pas à l'abri de cas de radicalisation. Ça m'est arrivé de le voir, j'en étais d'ailleurs étonné. Ça m'est arrivé une fois, voilà, un collègue qui, voilà, effectivement, refusait de serrer la main, de serrer la main des femmes.
Et mais on fait quoi dans ces cas-là, Yanis Roder? Qu'est-ce que vous, enseignant, vous faites en votre âme et conscience?
Bah, moi, en tant qu'enseignant, je n'ai pas à intervenir auprès du collègue en lui disant ce qu'il doit penser et ce qu'il doit faire. Simplement, je peux en informer ma hiérarchie en disant voilà, il faudrait veiller à ce que notre collègue bien s'inscrive bien dans son enseignement, notamment dans ce que veut transmettre la République.
C'est ce que vous avez fait ?
C'est ce que j'ai fait à l'époque, oui, en effet.
Yannis Roeder, professeur d'histoire-géographie en collège en Seine-Saint-Denis sur Europe 1.
Et nous apprenons à l'instant qu'un lycéen de 16 ans a été poignardé hier soir dans l'enceinte de son établissement à Cerny dans l'Essonne. Précisons qu'il était interne dans cet établissement. Il est pour l'heure grièvement blessé.
Vous écoutez Europe 1, il est midi 5, la suite de votre journal. Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin.
Et on en vient maintenant, Pierre, à cet attentat antisémite dans l'est de l'Allemagne. C'était hier après-midi.
Un Allemand de 27 temps lourdement armé, arrivait devant les portes de la synagogue de Halle et tirait sur la foule où étaient réunis environ 80 fidèles en pleine fête de Yom Kippour. Bilan 2 morts, 2 blessés graves. Aujourd'hui, le président allemand Steinmeier se rend sur place pour rencontrer les représentants de la communauté juive qui en Allemagne compte 225 000 personnes. Une communauté qui n'a eu cesse ces dernières années d'alerter les autorités sur les dérives. Hélène Kohl, vous êtes notre correspondante et du coup la polémique commence à enfler.
Oui, la synagogue hier n'était pas protégée alors que la communauté juive de cette ville moyenne de l'ancienne Allemagne de l'Est, Halle, a demandé à plusieurs reprises ces dernières années des renforts de sécurité, mais à chaque fois la police disait qu'il n'y avait pas de menace réelle. Or, on le sait, rien que l'an dernier, les crimes et les délits antisémites ont doublé en Allemagne. Le président du Conseil des Juifs d'Allemagne, Joseph Schuster, résume le sentiment général de sa communauté.
C'est le résultat d'un glissement d'une partie de la population allemande vers l'extrême droite. J'ai maintenant l'impression que les actes suivent les mots. On a franchi des lignes rouges ces derniers mois avec la parole. Donc pour moi, et je ne suis pas le seul, je ne vois pas cela comme un acte isolé, mais bien comme la conséquence d'une situation plus générale.
Il pointe évidemment le parti d'extrême droite AfD, dont certains leaders sont négationnistes ou minimisent les crimes nazis. Des hommes politiques qui ont profité de la complaisance de l'ancien patron des renseignements intérieurs, qui avait fait de la lutte contre l'islam radical sa grande croisade. Il a été renvoyé depuis, mais la police n'a toujours pas été réorganisée, comme l'a avoué ce matin le président du principal syndicat de police.
Nous ne pouvons pas nous occuper de l'extrême droite radicale en plus de la lutte contre le terrorisme islamiste. C'est trop compliqué. La police ne peut pas anticiper et protéger chaque événement dans l'espace public. C'est comme ça.
Alors l'attentat d'hier va-t-il changer la donne pour le ministre de l'Intérieur ? Désormais, le terrorisme d'extrême droite est au même niveau que le danger islamiste en Allemagne.
Merci Hélène Kohl. Complètement effarant ce témoignage du chef de la police qu'on vient d'entendre en Allemagne, qui ne peut pas, il le dit, à la fois surveiller les islamistes et l'extrême droite.
Vous écoutez Europe 1, il est midi 8, la suite de votre journal. Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin.
C'était une audition très attendue, Pierre, celle de Christophe Castaner ce matin devant la commission des lois du Sénat.
Attendue pour plusieurs raisons, notamment parce qu'elle était publique, donc on pouvait la suivre. Le ministre de l'Intérieur ainsi que son secrétaire d'État, Laurent Nunez, ont répondu aux sénateurs sur le dossier de la tuerie de la préfecture de police de Paris. Adrien Beck, vous êtes au Sénat, vous avez vous aussi attentivement suivi cette audition, présidée par celui qui, pour la petite histoire, a aussi présidé la commission Benalla. Et vous êtes tombé face à un Castaner qui s'est drapé dans la posture macronienne et qui veut réarmer la société.
Absolument, et ces propos de Christophe Castaner sont très clairs. On a un temps de retard sur nos ennemis, sur la lutte contre la radicalisation, dit-il. Pour lui, les esprits eux-mêmes ne sont pas prêts. Il faut donc les réarmer. Un exemple, selon le ministre, les moqueries qu'il a subies en début de semaine lorsqu'il a évoqué la nécessité de noter ces signes de radicalisation, comme le port de la barbe ou encore le refus de serrer la main aux femmes.
J'ai bien noté que, à partir des signes que j'avais indiqués, certains ont glosé, ont même fait de l'humour. Je trouve ça méprisable.
Alors le ministre appelle à la vigilance, comme l'a fait Emmanuel Macron lundi devant les policiers. Christophe Castaner, qui jusque-là n'avait pas réellement pu défendre ce sujet. Il a passé beaucoup de temps ces derniers jours à se défendre lui-même. Alors face au sénateur, le ministre s'est montré prudent, multipliant les précautions oratoires. Les échanges sont courtois, tellement courtois peut-être que lorsqu'un élu demande si le ministre peut communiquer la fiche de poste de Michael Harpon à la préfecture, Christophe Castaner répond:
Je crois qu'on doit pouvoir, on va vérifier, vous communiquer la fiche de poste de l'auteur. On va vérifier. Voilà. Elle est classifiée.
Elle est forcément classifiée. Tout ce qui touche à l'organisation, donc il y a l'enquête en cours, mais tout ce qui touche à l'organisation des services de renseignement sont classifiés. Donc.
Le ministre interrompu par son secrétaire d'État Laurent Nunez, Christophe Castaner, qui va donc poursuivre à présent son marathon parlementaire avec une nouvelle audition la semaine prochaine devant cette fois la commission d'enquête de l'Assemblée nationale.
Merci pour ce moment de radio, comme on dit. Adrien Beck du service politique d'Europe 1 en direct du Sénat.
Il est midi 10.
Europe 1.
On reste ensemble sur Europe 1 et dans un instant, 619 salariés de Michelin abasourdis par la fermeture de leur usine. Ça se passe du côté de La Roche-sur-Yon. A tout de suite.
Et midi 13, la suite de votre journal, Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin.
Et on prend tout de suite, Pierre, la direction de La Roche-sur-Yon, où Michelin va fermer son usine de pneus pour camions.
Une rumeur qui courait depuis quelques semaines maintenant, mais cette fois-ci, c'est fait, l'annonce est tombée. Aurélien Fleureau et 619 salariés sont abasourdis.
Oui, et le mot qui revient le plus ce matin, c'est trahison. Les salariés rappellent qu'ils avaient signé un pacte d'avenir en 2016, qu'ils avaient fait des efforts en acceptant de la flexibilité, des horaires en 3-8, en 4-8, mais que la direction n'a pas tenu ses engagements en annonçant donc cette fermeture pour la fin 2020. Jérôme Lorton, délégué syndical central Sud Michelin, était sur place au moment de l'annonce ce matin.
C'est un choc terrible pour l'ensemble des 619 salariés impactés par cette décision. Depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois, on essaye par tous les moyens d'essayer de trouver une solution pour cette usine. Quand on est dans une entreprise qui dégage 1,6 milliard de résultats nets, on peut prendre le temps avant d'annoncer une décision aussi radicale que celle-ci. Donc c'est franchement une trahison. Terrible.
La direction assure de son côté que chaque salarié sera accompagné, que des dispositifs inédits seront mis en place. Et le président de Michelin, Florent Ménégaud, a déclaré ce matin à nos confrères de Ouest France qu'il s'agissait d'une décision très difficile mais inévitable, notamment parce que le marché européen du pneu poids lourd décroît fortement à cause de la concurrence des pneus venus d'Asie à bas coût. Alors que les syndicats, eux, comme la CFE-CGC, dénoncent une stratégie de la direction, stratégie mortifère de maximisation des marges.
Merci Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1.
La France, Pierre, compte depuis le début de l'année 117 féminicides.
Et aujourd'hui, devant l'Assemblée nationale, la proposition de loi portée par le républicain Aurélien Pradié, la mise en place, promise d'ailleurs par Édouard Philippe il y a quelques semaines, d'un bracelet anti-rapprochement. Comment fonctionne ce dispositif, Ève Roger, et quelles en sont ses limites?
Alors l'objectif de ce bracelet, c'est de tenir à distance un conjoint ou un ex-violent. Alors comment ça marche? L'homme est équipé d'un bracelet, la femme d'un boîtier, et quand il se rapproche trop d'elle, c'est-à-dire qu'il franchit le périmètre de sécurité fixé par le juge, alors le bracelet émet un signal. S'il persiste, il continue d'aller vers elle. Non seulement la femme est avertie, mais aussi la police pour qu'elle intervienne. Alors pour que ce bracelet soit vraiment utile, il faut qu'il soit posé très rapidement, c'est-à-dire dès que la femme a porté plainte ou fait un signalement auprès du juge des affaires familiales, parce que c'est à ce moment-là où elle est le plus en danger. Mais le problème, c'est que le juge des affaires familiales ne peut pas imposer le bracelet à l'homme, contrairement à son collègue du pénal, seulement lui proposer. Alors la loi prévoit que s'il refuse, le juge pourra saisir alors le parquet qui, lui, aura des moyens de coercition. Ce dispositif devrait être lancé dans le courant de l'année prochaine, 2020 donc. 1 000 000 de bracelets anti-rapprochement devraient être disponibles. L'objectif, c'est d'aller le plus vite possible.
Merci Ève Roger, chef du service Société d'Europe 1.
Il est midi 16, la suite de votre journal. Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin.
En Tunisie, le parti d'inspiration islamiste Ennahda est arrivé en tête des législatives.
52 sièges sur 217 selon des résultats préliminaires officiels, ce qui le place devant l'autre favori, Nabil Karoui, qui cette nuit est sorti de prison. Mathieu Bock, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Tunis et cette libération, eh bien, elle a surpris tout le monde. Hein.
Oui, les membres de son équipe de campagne étaient disséminés aux quatre coins du pays quand la nouvelle de sa libération est tombée. Ils sont arrivés en catastrophe. Pendant ce temps-là, plusieurs dizaines de militants avaient eu le temps de former un comité d'accueil à la sortie de la prison, comme Asia et Amel.
On a eu peur, mais Alhamdoulilah, il est sorti. On est très très contents. C'est une personne d'accord qui est dans la communication, mais qui a aidé beaucoup de gens. Dans tous les villages du coin de la Tunisie, il y avait des villages qu'on ne connaissait même pas. Il les a bien aidés. Il a peut-être fait ça pour être reconnu et être élu, mais les autres, ils parlent, mais ils n'ont pas fait ce qu'a fait Nabil Karoui.
Comme je suis anti-Nahda, je suis vraiment, j'aime pas les partis, je ne savais pas, je suis bien sûr musulmane et je suis pratiquante aussi et tout, mais toujours j'ai peur de leur voix, comment ils dirigent les pays.
Alors Nabil Karoui a demandé un report d'une semaine du second tour prévu dimanche afin d'avoir le temps de faire campagne. Nabil Karoui, qui ne s'est toujours pas exprimé depuis sa sortie, il doit donner une grande interview à la télé tunisienne ce soir. Il doit également annoncer s'il accepte de participer à un débat télévisé organisé demain soir avec son adversaire, Kais Saied.
Merci Mathieu Bock, en direct de Tunis pour Europe 1. Lyon accueille la conférence pour le Fonds mondial pour lutter contre les pandémies. L'objectif est de lever ce matin 14 milliards de dollars pour éradiquer le sida, la tuberculose et le paludisme en 2030. La France vient d'annoncer une hausse de 15% de sa participation. Jean-Rémy Baudot, vous suivez cette conférence pour Europe 1. La France veut montrer l'exemple et met une très grosse pression pour que les autres fassent de même.
Oui, après avoir annoncé la hausse de la contribution française à près d'1,5 milliard de dollars sur 3 ans, le président Macron a nommé les bons élèves.
Évidemment les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni.
Mais contrairement aux pratiques diplomatiques, il a publiquement pointé ceux qui avaient selon lui encore des efforts à faire, comme le Japon.
Nos amis japonais font beaucoup, je le sais, mais je crois à la surprise. Je sais, monsieur le ministre, que vous êtes là. Je suis sûr que le Japon peut toucher ses 15%. Et c'est un game changer, comme on dit en bon français.
Pointé du doigt aussi la Norvège, le Qatar, l'Arabie Saoudite, Emmanuel Macron exhortant la salle à, je cite, les appeler à tweeter, à les harceler pour les faire bouger.
Je ne laisserai personne sortir de cette pièce, ni quitter Lyon, tant que les 14 milliards de dollars ne seront pas obtenus.
À l'Elysée, on assume ce procédé de name and shame. C'est le rôle du pays hôte de mettre la pression, explique un conseiller. La méthode semble porter ses fruits. La Norvège a annoncé le doublement de la hausse de sa contribution quand le Qatar l'a tout simplement multiplié par 5.
Merci Jean-Rémy Baudot. À Lyon pour Europe 1. En bref, la sécheresse. 3 bassins de la Somme sont placés en situation d'alerte, voire alerte renforcée pour préserver la ressource en eau.
Vous écoutez Europe 1, il est midi 19. Europe 1.
Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. Pas de match Angleterre-France, ni Nouvelle-Zélande-Italie d'ailleurs, au Mondial de rugby au Japon. En cause, le typhon qui menace ce samedi. A tout de suite.
Il est midi 22, la suite de votre journal, Pierre Devineau, Raphaël Duchemin.
70 000 spectateurs devaient assister samedi à France-Angleterre, le crunch. Sauf que voilà Pierre, le match n'aura pas lieu.
Mais le match qui devait se jouer à Yokohama, près de Tokyo, est annulé à cause de l'arrivée prochaine d'un typhon qui s'appelle Agibis. C'est au Japon bien sûr. Simon Rubin, vous y êtes au Japon. Qu'est-ce que ça change d'ailleurs pour l'équipe de France ?
Bah écoutez, à première vue, c'est parfait pour les Bleus. Hein. Pas de match samedi, du repos supplémentaire, la vie est belle. D'autant que pendant ce temps-là, bah, les Gallois, eux, ils jouent. Hein. Ils étaient sur le terrain hier et seront de nouveau à l'œuvre dimanche. Le Pays de Galles, futur adversaire des Bleus en quart de finale. Et donc les Gallois auront beaucoup moins de repos. C'est d'ailleurs un vrai problème en termes d'équité. Mais dans le camp français, on n'est pas mécontent. Mais attention, parce que cette pause forcée jusqu'au 20 octobre, date du quart de finale, peut être piégeuse. Pour monter en gamme, une équipe de rugby a besoin de jouer des matchs. Et les Bleus, on l'a vu, n'ont jamais rendu une copie parfaite. Jouer l'Angleterre samedi aurait donc permis de progresser, de corriger les détails. Et avec ce match annulé, eh bien, certains joueurs auront finalement assez peu joué dans ce mondial. Comme par exemple Antoine Dupont, le demi de mêlée, grosso modo un match et demi en cumulé. Faut savoir aussi que les titulaires contre le Pays de Galles seront à peu près les mêmes que contre l'Argentine, c'était le match d'ouverture, avec donc un écart d'un mois entre ces deux rencontres. C'est très long. Le danger, c'est vraiment que les Bleus manquent de rythme, ne profitent pas de l'enchaînement des rencontres pour monter en intensité et en pression. Et d'ailleurs, beaucoup de joueurs du 15 de France à choisir auraient préféré jouer l'Angleterre plutôt qu'être au repos forcé.
Merci beaucoup Simon Rubin. Effectivement, il y a cette annulation également de Nouvelle-Zélande, d'Italie, et il y a également un risque pour le Grand Prix du Japon puisque les organisateurs surveillent de près, nous dit-on, ce typhon Agibis, Grand Prix qui doit avoir lieu dimanche.
Allez, on part en Iran parce que là-bas, pour la première fois, eh bien, les femmes, figurez-vous, sont autorisées à assister à un match de foot cette fois. Pauline Jacquot. On peut le dire, c'est un vrai progrès.
Oui, c'est une première, en tout cas depuis 40 ans. Depuis la révolution islamique, interdiction pour les femmes de se rendre au stade officiellement pour les préserver de la grossièreté des hommes. Alors aujourd'hui, forcément, c'est un jour très particulier en Iran. 3500 spectatrices sont attendues cet après-midi dans les gradins, supportrices, passionnées et puis journalistes, journalistes sportives comme Raha Pourkbarch.
Les man,
C'est la première fois cet après-midi qu'elle va commenter le match depuis les tribunes et non devant sa télévision. Elle n'était pas entrée dans un stade de foot depuis l'âge de ses 7 ans, dit-elle, et ça, c'était il y a 25 ans.
Pauline, c'est d'autant plus un événement qu'il y a 3 semaines, une femme se suicidait après avoir essayé d'assister à l'un de ces matchs.
Oui, la jeune femme avait tenté de rentrer dans le stade, effectivement, déguisée en homme. La police l'avait arrêtée et puis quelques temps plus tard, face aux menaces de prison ferme, elle s'est suicidée devant un tribunal. L'Iran ouvre aujourd'hui une petite brèche, mais s'il faut aller encore beaucoup plus loin, dit par exemple Amnesty, cet après-midi dans le stade, les femmes seront dans des tribunes réservées et surveillées par 150 policiers.
Merci beaucoup Pauline Jacquot. Et puis on apprend qu'en Ligue 1, que Toulouse met un terme au contrat de son entraîneur Alain Casanova.
Merci Pierre, on parle football hein, bien sûr le TFC, on aura des nouvelles d'ici le journal de 13h puisque vous revenez à 13h.
Mais oui.
À tout à l'heure.
Il est midi 25.
Europe 1.
Restez avec nous, deux micros, deux projets, deux experts, c'est la France Bouge Académie sur Europe 1. À tout de suite.